Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und élégant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir aus los. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Und Femme. C'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes dans Remue Ménage, Onde Femmes Radio Zone 93.8 et aujourd'hui en compagnie de notre amie de l'inédite Annette Zimmermann. Annette, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, nous nous retrouvons après des vacances, un début d'année, et nous avons avec Annette des livres à vous proposer à découvrir. Ce soir, Annette, tu peux nous dire ce que tu nous proposes en découverte ?
Alors, comme d'ailleurs les lectrices de la librairie le savent bien, j'ai un faible pour les femmes russes. Et effectivement, je suis tombée à la librairie sur deux biographies hasard ou non, sont effectivement des histoires de deux femmes nées en Russie, l'une dans les années 1850 et l'autre à la fin du siècle, donc du 19e siècle.
Et quelles sont ces femmes, Annette ?
Alors, l'une s'appelle Sonia Kovalevskaya.
Celle-là, vous ne la connaissez pas ?
Non, c'est une mathématicienne, disons-le. Et l'autre, elle a un nom de famille pas russe, parce qu'elle s'est mariée deux fois et elle porte le nom en littérature de son premier mari, c'est Elsa Triolet.
Et celle-là, vous la connaissez, mais certainement vous aurez beaucoup de choses à découvrir dans la biographie qu'en a faite Lily Marcou avec le sous-titre « Les yeux et la mémoire », c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Voilà. Alors, nous commencerons par la biographie de Sonia Kovalevskaya et vous pouvez mettre dans l'ambiance un petit peu de musique.
Byla ve mně lampa plná petroleje a tu lampu večer muži rozsvěceli, nechápali vůbec, co se se mnou. Kdy na sekeru neviděli, co se děje, když má lampa bliká. Chtěli holku, co se směje, holku, co se slíká. Co se slíká. A tak se jednou stalo, když mě s tým už svlékl, že má petrolejka blikla naposledy. Ten pán se mi vysmál, pak se trochu lekl, to když cítil místo tepla chladné ledy. Smutně jsem se rozloučila s tím posledním pánem, poprvé jsem teď
vás nasránem, marně chodím do expresa, bez lampy jsem tmavá, z džinu světlo nevykřesám, z džinu bolí hlava.
C'est la voix de Marta Kubisova que vous entendez en ce moment. Alors Annette, je crois qu'on va d'abord raconter un petit peu quelle est la vie de Sonia Kovalevskaya, parce que personne ne la connaît effectivement, cette mathématicienne. D'abord, on ne connaît que tellement rarement les femmes scientifiques.
Alors ça, c'est sûr.
On ne connaît pas Sonia Kovalevskaya, mathématicienne. Et donc, en dehors des événements de sa propre vie, nous avons plein de choses à envie, chers auditrices et auditeurs, à vous faire découvrir de la situation des femmes mathématiciennes ou scientifiques aujourd'hui. C'est ça, Annette?
Et puis aussi du choix que les filles font de suivre des filières scientifiques et techniques.
Voilà. Et puis, nous avons demandé à un homme, professeur de maths, de lire cette biographie et ensuite de nous en dire un petit peu ce qu'il en pense. Et donc, ce sera la deuxième contribution à propos de la vie de Sonia Kovalevskaya. Alors, si on devait résumer, Annette, les étapes essentielles de Sonia Kovalevskaya, qu'est-ce qu'il faudrait dire? D'abord, situer qu'elle est née en 1850. Donc, nous sommes milieu du 19e siècle.
Exactement, milieu du 19e siècle. Elle est issue d'une famille de petits nobles ou de gens qui ont certains moyens financiers, mais qui ne sont pas dans les nobles riches de l'époque, comme énormément de ces jeunes filles qui feront des études et s'émanciperont.
Mais elle vit, précisons-le, on a oublié de dire, en Russie.
Alors elle est née à Moscou même, et elle a vécu une partie de son enfance dans la campagne de Russie, dans un manoir que ses parents avaient acheté. Et donc elle vit en fait élevée par une préceptrice. Elle a des professeurs privés à la maison, mais en fait elle ne suit pas des écoles particulières. Et elle sera en fait, dans ce sens-là, véritablement une autodidacte.
Et puis à un moment donné, alors je ne sais pas s'il est important de parler de la suite de son enfance ou est-ce qu'on peut sauter directement au moment où se posera la question justement de faire des études dans un milieu universitaire?
En fait, les jeunes filles de l'époque, donc en Russie notamment, mais aussi ailleurs, on l'a vu l'année passée avec notre juriste suisse, voilà, ne pouvaient pas s'inscrire vraiment à l'université. Elles n'étaient pas admises pour des raisons de tradition, mais également d'impossibilité de suivre des cours d'école de genre gymnase avec leurs homologues masculins. Et pour les jeunes filles russes, c'était encore plus drastique dans le sens qu'aucune université de leur pays ne les acceptait. Donc, très rapidement, elles s'expatriaient et suivaient des cours dans les universités qui les acceptaient en général comme auditrices, mais où elles pouvaient quand même suivre des cours avec des collègues masculins.
Oui, mais enfin, c'était si simple que ça pour ces jeunes femmes de décider de partir, de quitter leur famille, de quitter leur pays? On les laissait comme ça voyager, aller étudier
non,
ailleurs?
Non, mais effectivement, quand on lit la biographie de Sonia Kovalevskaya, on se rend compte que c'était quand même un état d'esprit assez répandu et qu'effectivement, il y avait tout un groupe de jeunes gens et de jeunes filles intellectuels russes, c'est ceux qu'on nomme d'ailleurs dans l'histoire les nihilistes, ceux qui luttaient aussi contre la politique du tsar, et qui se retrouvaient quand même assez facilement dans des cercles privés, notamment à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Et effectivement, Sonia Kovalevskaya, dans son adolescence, a passé pas mal d'hivers à Saint-Pétersbourg. Elle avait une sœur qui était, elle, alors très branchée, si on peut dire, sur la littérature. Et les deux jeunes filles avaient l'habitude de rencontrer des jeunes gens, des jeunes filles qui, comme elle, avaient une terrible envie de se former sur le plan, disons, des connaissances en général, et aussi de sortir de la Russie, consciente qu'il fallait connaître un petit peu les idées philosophiques, sociales, politiques avec lesquelles elle pouvait faire mieux connaissance si elle rejoignait les universités allemandes ou suisses. On sait qu'à Zurich, il y avait pas mal de jeunes filles russes, et notamment à Genève aussi. Il y a eu une époque à la fin du 19e siècle où il y avait plus de jeunes filles russes à l'université que de jeunes filles suisses.
Mais bon, c'est vrai que je pense que c'est important quand tu dis c'est l'époque aussi où il y a déjà une sorte d'effervescence révolutionnaire.
Tout à fait,
il y a une lutte politique importante qui se passe et aussi aller étudier ailleurs, c'est se renforcer, c'est acquérir, se retrouver aussi peut-être entre gens qui défendent les mêmes idées. Et je crois que savoir que par exemple, Sonia Kovalevskaya a utilisé le mariage en blanc pour partir de chez elle avec l'accord d'un de ses étudiants qui était d'accord avec ses idées, mais qui était d'accord de l'aider pour qu'elle puisse partir.
Alors c'était d'ailleurs quelque chose qui était justement assez habituel. Et on sait que plusieurs de ces jeunes filles qui sont parties à l'étranger ne pouvaient partir que munies, si on veut, du fait qu'elles n'étaient plus célibataires, donc dépendantes de leur père, mais qu'elles étaient mariées. Et avec l'accord du mari, elles pouvaient quitter la Russie, donc avoir un passeport pour elles, et puis traverser la frontière et aller en Allemagne, en France, n'importe où. Et c'est vrai que ça a été donc le cas de Sonia Kovalevskaya qui a rencontré son mari, Kovalevski, donc après elle a changé de nom, et qui a été d'accord de contracter ce mariage avec elle. Effectivement, mariage blanc, si on peut dire. Effectivement, au début, c'était l'alliance de deux intellectuels. Et finalement, ils ont quand même eu une vie commune, puisqu'elle a eu une petite fille avec son mari, beaucoup d'années plus tard d'ailleurs. Elle s'est mariée très très jeune, elle n'avait pas 20 ans. Et ils sont partis les deux, donc en Allemagne. Et elle a fait à ce moment-là donc, des études en privé, de nouveau. Elle a suivi des cours à l'université de Göttingen, mais elle a passé un doctorat, une thèse. Mais ça a été grâce à l'appui d'un professeur en privé.
Oui, parce qu'il lui a fallu un sacré courage dans la mesure où elle a dû se faire plusieurs, si je puis dire, se faire plusieurs, entre guillemets, examens d'entrée dans les universités allemandes parce qu'on ne l'acceptait pas partout.
Non, notamment à Berlin.
À Berlin, voilà. Ouais. Et c'est là, entre autres, qu'elle va rencontrer un grand mathématicien, Weierstrass,
c'est ça.
Qui va compenser le fait qu'on la refuse à l'Uni, où elle a déjà étudié d'ailleurs ailleurs en Allemagne, à Heidelberg, et il va lui donner des cours privés pour compenser le fait qu'elle ne peut pas aller à l'Uni. Et avec lui, il va y avoir vraiment une des recherches importantes.
Alors bon, moi je ne suis donc pas spécialiste en mathématiques, nous verrons après avec notre invité, mais il est sûr qu'une fois de plus, c'est grâce à l'appui d'un professeur reconnu, Monsieur Weierstrass, qu'elle a pu arriver à des connaissances équivalentes à un professeur d'université. Et il paraît assez évident qu'il a été conquis par les capacités remarquables de cette jeune fille.
Il lui a fait confiance au point de lui confier une partie de recherche qui va l'amener à pouvoir faire une thèse de doctorat.
C'est ça. Mais effectivement, pour elle, ça a été un premier passage très important. Et en même temps, elle doit lutter parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas être considérée à l'égal d'un de ses collègues masculins. Parce qu'on n'admettait pas les femmes à l'université. C'était tout à fait extraordinaire qu'on lui permette de présenter une thèse. C'était, comme on dirait aujourd'hui, une dérogation à la coutume. Et ensuite, elle a essayé de trouver des postes dans d'autres universités et elle n'a pu être nommée qu'après pas mal de démarches à Stockholm.
Mais elle sera quand même la première femme docteur en mathématicienne et responsable d'une chaire d'enseignement dans une université.
Alors, en Europe, en tout cas, effectivement, ça a été la première et après elle, je crois qu'on doit attendre assez longtemps avant d'avoir une autre femme professeure ordinaire, comme on dit aujourd'hui, à l'université.
Et puis, quand elle sera à l'université de Stockholm, alors qu'est-ce qui va se passer? Elle va pouvoir continuer ses recherches, enseigner normalement
Non, pas vraiment, pas vraiment. Et c'est sûr que quand on lit les biographies de ces femmes, on admire énormément leur courage et leur détermination et on se dit qu'il leur en a fallu vraiment énormément. Et là donc, à l'époque, elle a 25 ans, elle est jeune, elle a des papiers équivalents à d'autres, mais on ne l'admet pas vraiment comme professeur. Elle est acceptée comme privadocent. C'était la fonction à l'époque d'assistante ou de professeur chargé de recherche. Et à ce moment-là, on admettait les femmes que pour avoir des responsabilités mineures. même si elles avaient les capacités et puis si elles avaient, disons, les idées de recherche suffisantes pour développer une chaire de mathématiques. Alors, on sent bien à travers cette biographie que ça a été pour elle quand même des moments extrêmement difficiles et qu'elle a dû toujours trouver en elle suffisamment d'énergie pour reprendre la recherche en mathématiques. D'ailleurs, on remarque dans ce livre qu'il y a un moment donné où elle stoppe ses recherches, elle se sent, et probablement c'est par manque de soutien, elle retourne en Russie quelques années, et c'est à ce moment-là qu'elle se pose pas mal de questions, des questions que je pense pas mal de femmes scientifiques ou femmes souhaitant, disons, arriver à une carrière universitaire ou autre, se posent. C'est comment est-ce que je vais concilier une vie de femme avec des enfants, elle a une petite fille à ce moment-là, et puis essayer de continuer ma carrière de chercheuse mathématicienne. Elle a beaucoup hésité entre les différents chemins qui se présentaient à elle, et on sent très fort dans ce livre la difficulté d'être de cette jeune femme.
Et finalement, elle va mourir très très jeune, donc elle n'aura pas vraiment le temps d'approfondir ses questionnements, de mener à bien toutes ses recherches, puisqu'elle va mourir à 41 ans, c'est extrêmement jeune.
Elle est morte donc d'une pneumonie, de maladie, mais dans la biographie qui est relatée donc par une de ses amies dans la deuxième partie du livre, eh bien on se rend compte qu'elle était aussi assez désespérée, assez seule, et qu'elle était entre autres extrêmement frustrée de contact avec d'autres gens qui font de la recherche. Elle aurait voulu passionnément être admise dans une université à Paris, par exemple. Elle a d'ailleurs obtenu en 1888, donc là elle a 38 ans, hein, elle est jeune, eh bien elle obtient le prix Bordin, qui est donc une grande distinction pour une recherche mathématique sur les ellipses. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais enfin, c'est une distinction extrêmement recherchée à l'époque. Donc, à partir de là, elle espère pouvoir continuer une carrière de mathématicienne. Elle est vraiment encouragée puisqu'elle a obtenu ce prix-là. Mais aucune université française ne lui ouvre ses portes. Elle doit retourner à Stockholm. Et là, elle se désespère un petit peu.
Elle a l'impression un peu d'être dans un trou à Stockholm.
Voilà, absolument.
Et c'est ce désespoir qui va teinter un petit peu le restant de sa vie.
Dans la biographie que j'ai là sous les yeux, effectivement, on a l'impression que là, elle a aussi d'autres difficultés. Son mari est mort, elle est très seule sur le plan personnel, et elle n'a pas vraiment fait sa vie à Stockholm sur le plan personnel. Elle est aussi toujours très attachée à la Russie. C'est sûr que là aussi, c'est un des grands regrets qu'elle exprime dans ce livre, enfin qu'on sent à travers les pages de ce livre. C'est l'impossibilité pour elle de rejoindre son pays et de pouvoir travailler pour former des jeunes gens et des jeunes filles dans son pays à elle. Et là, elle est vraiment coupée entre différents horizons. Et elle n'arrive pas à se trouver une authenticité, une identité vraiment de chercheuse quelque part. Et on sent que ça, c'est une difficulté assez, assez insurmontable. Elle a d'ailleurs même essayé pour changer un petit peu, pour trouver peut-être d'autres voies de réussite personnelle, d'écrire des livres et des pièces de théâtre. Donc pour vous dire que c'était une femme qui non seulement ne se contentait pas d'être une brillante intelligence au niveau scientifique, mais de surcroît, elle osait se lancer dans la composition d'un ouvrage de théâtre, d'une nouvelle. Et bon, ça n'a pas été apparemment des livres qui ont eu un grand succès en librairie à l'époque, mais malgré tout, ça dénote un acharnement à la recherche, à la production, qui est, je pense, extrêmement intéressant.
Annette, dans le résumé que tu as fait paraître dans le petit journal que nous recevons chaque mois par la librairie L'Inédite, tu conclus ton résumé sur une chose qui m'a beaucoup intéressée. Visiblement, Sonia Kovalevskaya avait conscience qu'elle était un des maillons de la chaîne qui peut-être allait faire avancer les choses pour les femmes. Est-ce que tu nous peux nous parler un petit peu plus de ce sentiment-là? Comment elle se rendait compte de ça? Quelle conscience féministe elle s'était créée à une époque où, malgré tout, elle n'était pas encore très forte en règle générale dans la société?
Mais je pense que le fait qu'elle ait été quand même toujours seule femme mathématicienne dans un cercle de savants, de scientifiques, lui a bien fait prendre conscience que ce n'était pas si facile que ça pour une jeune fille de choisir la voie scientifique. Elle avait dans sa famille sa sœur qui était elle alors une femme de lettres, où c'était quand même plus courant que les femmes arrivent à être reconnues comme des auteurs valables. Et je pense qu'elle avait peut-être plutôt un pressentiment, un petit qui se confirme d'ailleurs aujourd'hui, c'est que de toute façon, il y a une espèce d'a priori face à la mathématique, face à un certain nombre de connaissances techniques, qui dit que les garçons se débrouillent mieux que les filles. On sait que c'est un discours assez courant. Et aujourd'hui, on ne peut que constater que les filles ne choisissent pas du tout en priorité les études scientifiques. Et ça pose un problème général au choix des mathématiciennes.
Krát poražený, zvítězíš v srdci jediné ženy. A místo štítu ochrání tě moje dlaň. Víc nechtěl by snad ani D'Artagnan. Kdybych měl štít svůj stokrát prostřelený, potom chránila by mě tvá malá dlaň.
Parmi ces femmes et ces jeunes filles politiques, toutes plus ou moins ravagées par la vie, Sonia faisait vraiment une étrange impression avec son aspect juvénile qui lui valut le surnom de Petit Moineau. Elle avait à peine 18 ans et paraissait beaucoup plus jeune. Petite, fluette, le visage rond, les cheveux courts et frisés, la physionomie expressive et singulièrement animée, les yeux surtout, passant avec mobilité de l'enjouement à une sérieuse rêverie, elle offrait le mélange d'une naïveté presque enfantine et d'une remarquable profondeur de pensée. Elle séduisait tout le monde par le charme inconscient qui la caractérisait à cette époque. Jeunes et vieux, hommes et femmes, étaient également attirés. Mais elle ne semblait pas remarquer les hommages qui l'entouraient, tant elle était simple et dénuée de coquetterie. Sa toilette ne lui donnait aucun souci, elle y apportait même une grande négligence qu'elle conserva toujours.
Kdy na sekeru neviděli, co se děje, když má lampa bliká. Chtěli holku, co se směje, holku, co se slíká. Když mě s tým už svlékl, že má petrolejka, blikla naposledy. Ten pán se mi vysmál, pak se trochu lekl. to, když cítil místo tepla.
Annette, aujourd'hui, la situation des jeunes filles qui voudraient commencer des études de mathématiques n'est évidemment plus du tout la même que celle qu'a vécue Sonia Kovalevskaya. Heureusement quand même.
Et notamment à Genève, il n'y a aucune différenciation entre la formation des filles et des garçons depuis la première année enfantine jusqu'à la fin du cycle d'orientation, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les cantons suisses, hein, il faut le dire. Mais là, effectivement... Il semble qu'une fille comme un garçon peut faire sa scolarité et choisir tranquillement les mathématiques, la physique, la biologie comme branche de base si ça l'intéresse, si elle est bonne élève.
Et est-ce que ça l'intéresse ? Parce qu'on sait bien qu'il ne suffit pas que ce soit autorisé pour que ça marche. En fait, il faut encourager les filles à se laisser aller aussi à leur choix par rapport aux sciences. Il faut qu'on ne leur dise pas depuis leur plus jeune âge que tout ce qu'elles ont de mieux à faire, c'est de s'occuper des enfants et puis leurs petits frère du train électrique et de la machine à vapeur. Donc, il y a quand même tout plein de choses qui contribuent à ce que peut-être à un moment donné, une fille choisisse de commencer des études scientifiques.
Alors, il faut peut-être d'abord préciser que, effectivement, au niveau à Genève, donc du cycle d'orientation, il y a une augmentation quand même assez régulière. Un changement, disons, depuis la création du cycle, dans le choix des filles pour la section scientifique. Et il n'en reste pas moins qu'elles sont largement sous-représentées dans la section scientifique au cycle d'orientation et qu'elles représentent alors plus d'élèves. Il y a beaucoup plus d'élèves d'élèves filles qui choisissent la section latine que la section scientifique.
Il n'est pas rare d'ailleurs, je crois, d'avoir dans une classe de latine que des filles puis un ou deux garçons perdus et la même proportion inverse dans les classes de scientifiques.
Voilà. Hein. Et alors, ils ont 12, 13 ans. Donc, c'est sûr que ce n'est pas des choix définitifs, que c'est des choix essentiellement scolaires. Et là, on peut se poser la question de savoir pourquoi, en fait, si peu de filles... Pourquoi est-ce qu'il y a moins de filles, si peu, ça, c'est difficile à dire, enfin moins de filles que pour les filles, c'est plus difficile que pour les garçons de se dire, eh bien je vais faire une section où il y a de la physique, de la biologie, de la chimie.
Alors est-ce que les offices d'orientation professionnelle, le bureau de l'égalité entre hommes et femmes, je ne sais pas, ces organismes qui sont concernés par ces questions, se sont penchés sur cette question-là ?
Alors c'est un débat qui est ouvert, absolument. Et on ne peut que constater que ce qui se passe, est-ce que j'ose dire désolant, en tout cas problématique, à la fin du cycle d'orientation, quand il s'agit de choisir des filières professionnelles, la différence est encore bien plus forte. Parce que même les filles qui sortent de la section scientifique ne vont pas à l'école d'ingénieurs ou à l'école aux écoles techniques et de métiers. On peut quand même se dire qu'aujourd'hui, être dessinatrice en bâtiment, être électronicienne, c'est tout à fait concevable. Les fameux arguments de « c'est pas pour une fille » tombent absolument. D'ailleurs, les filles qui sont en section scientifique ont d'aussi bons résultats que leurs camarades masculins. Donc, ce n'est pas au niveau des capacités, des résultats, mais c'est bien au niveau des choix qui, les réponses, elles sont dans la recherche.
Alors bon, je peux faire juste peut-être une petite parenthèse. C'est vrai que Viviane Gonick et moi-même, nous avons depuis longtemps l'envie, et ceci poussé par des témoignages que nous avons entendus, de savoir ce qui se passe pour les quelques rares jeunes filles qui osent et qui choisissent d'entrer dans ces filières dont tu viens de parler, c'est-à-dire les écoles techniques ou les apprentissages qui jusque-là étaient plutôt réservés aux garçons. Parce que pour ces courageuses-là, c'est encore un dur chemin à parcourir, d'après ce que nous avons entendu dire, de raconter de certaines d'entre elles. Et nous nous promettons de faire très prochainement une émission sur ce sujet parce que ça a l'air vraiment de n'être pas encore de la tarte. Oui. Alors, ce qui veut dire que les patrons, les profs, pour eux, ce n'est pas encore un acquis, la présence des filles.
Et il faut ajouter que la Suisse, pour ce problème-là, est vraiment à la traîne dans la communauté européenne. Il y a en France, en Allemagne, en Italie, dans les pays du Nord, un pourcentage quand même plus élevé, même s'il est encore faible, un pourcentage plus élevé de jeunes filles qui choisissent des filières techniques qu'en Suisse.
Est-ce que tu as des chiffres à nous donner pour qu'on
Alors,
se rende compte?
Alors, par exemple, à l'école technique et de métier, donc c'est les mécanicien de machine, dessinateur de machine, électronicien, électronicienne, il y a 150 garçons et une fille à Genève. Ce sont des écoles à plein temps. À l'école d'ingénieur, il y a 907 garçons et 69 filles. C'était pour 1992. Ces 69 filles sont essentiellement dans la section, évidemment, architecture, qui est la section technique, les sciences techniques qui offrent le plus d'intérêt pour les filles et où il y a plus de jeunes filles.
Est-ce que tu as des chiffres pour les universités, par hasard ?
Alors, on se rend compte que dans la faculté, le pourcentage général des filles, on pourrait peut-être déjà commencer par cela, s'élève à 51% et celui des garçons à 49%. Donc en fait, il y a une égale répartition de filles et de garçons à l'université, toutes sections, toutes facultés confondues. Mais ensuite, alors, on a des assez grosses différences. Dans les sciences, il y a 58,6% de garçons. En médecine, c'est à peu près équivalent. En lettres, il y a 71% de filles. En SES, 39% de filles. En FAP, c'est 76% de filles. Et en droit, c'est l'équivalence.
Alors, dans quelques instants, nous allons donner la parole à André Wurmann, qui est lui-même professeur de mathématiques et qui va peut-être nous donner son point de vue à partir de la biographie de Sonia Kovalevskaya.
Très bien.
Jako bez